Mardi 9 mai 2023, vous êtes en compagnie de Rukaito Abdrahman pour l'édition de 17h. Tout de suite, les titres. Les pluies tombées ces derniers jours à Niamey et dans d'autres régions du pays sèment la confusion en ce début de la saison pluvieuse. Vous aurez les explications de la direction de la météorologie nationale dans ce journal. À Tillabéri, dans le département de Baléyara, les autorités sanitaires s'engagent à trouver des solutions au danger de l'accouchement à domicile. Les détails dans un instant. La partie magazine de ce soir portera sur le problème de la scolarisation de la jeune fille à Timia, département d'Iféroun. Bonsoir, monsieur, dames, et merci de nous recevoir. Les précipitations observées ces derniers jours dans les régions de Niamey, Dosso, Tillabéri et Tawa n'annoncent pas le début de la saison pluvieuse, mais elles sont dues à des perturbations atmosphériques d'après les services de la météorologie nationale. Madame Aminou Nafissa, prévisionniste à la direction de la météorologie nationale, explique.
Vous savez, au Sahel, l'installation de la saison des pluies, c'est plutôt en juin. Alors en mai, nous avons ce qu'on appelle les pluies hors saison, où nous parlons de précocité dans l'installation de la saison. Les pluies que nous avons enregistrées ces derniers jours sont liées à des perturbations atmosphériques. Pour l'installation effective de la saison, il faudrait attendre vers le mois de juin. Bien que sur le Dendi, on peut parler d'installation vers la troisième décade du mois de mai. En ce qui concerne les cultivateurs ou les producteurs, c'est vraiment d'attirer leur attention. Ceux qui ont déjà semé vont perdre leur semis, ce qui est sûr. Ceux qui n'ont pas encore semé et qui veulent semer, c'est vraiment d'attendre une installation effective de la saison.
La suite de ce journal, plusieurs femmes de la commune rurale de Tagazar, département de Baléyara, accouchent à domicile en dépit des efforts de sensibilisation. Ces accouchements causent souvent la mort du bébé, de la mère ou des deux. Pour encourager les femmes à accoucher dans les centres de santé, les autorités sanitaires du département ont initié des mesures. Docteur Abdul Rachid Adamou Mouni est au micro de Mamata Dandakoy.
Nous enregistrons beaucoup d'accouchements à domicile, ce qui ne nous arrange pas, car nous avons des femmes qui arrivent au centre de santé dans des situations très critiques après avoir accouché à la maison. Et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour elles parce qu'elles ont été affaiblies par l'accouchement non assisté. Or, notre objectif est d'éviter qu'une femme meure en donnant la vie. C'est pourquoi nous appelons les femmes à venir accoucher à la maternité, et ce, dès que le travail commence. Il n'y a aucun frais à payer. J'ai d'ailleurs instruit les agents de santé de donner au moins du savon aux plus démunis qui viennent accoucher. Ensuite, ceux qui peuvent appuyer la femme en habit de bébé, en pagne ou autre sont les bienvenus. Et celles qui disent qu'elles ont été retardées par le manque de frais de transport, le centre lui remboursera les frais du charretier.
Santé toujours à Ndjindjimi. Jusqu'à présent, beaucoup de femmes ne fréquentent pas les services de santé pour les consultations prénatales. Et pourtant, c'est très important pour la santé de la mère et de l'enfant. Selon Dalla Gambo, certains époux empêchent leurs femmes de fréquenter les services de santé. On l'écoute au micro d'Abdoulaye Meina.
De la ville de Ngingimi et alentour, les femmes ne fréquentent pas les CSI. Selon moi, c'est la négligence des maris. De que vous constatez que votre femme est enceinte, vous devez vous occuper d'elle, c'est-à-dire lui rappeler les périodes de consultation prénatale et autres. Mais j'ai constaté que certaines femmes ne veulent pas prendre le fer. Pourtant, il joue un rôle très important pour le bien-être de la femme enceinte et de son bébé, car ça lui permet de ne pas tomber dans l'anémie, surtout au moment de l'accouchement. Les consultations prénatales sont très importantes pour les femmes enceintes. Par exemple, les médecins leur prodiguent des sages conseils sur la façon de se comporter, ce qu'elle doit manger et aussi les aliments qu'elle doit éviter pour ne pas avoir de complications lors de l'accouchement.
En cette période de chaleur, la case de santé de Kintebisguine dans la commune de Kirozérine se retrouve avec de nouvelles maladies comme la diarrhée et les maux de tête. Par ailleurs, il relève également des accouchements à domicile dans des zones nomades. Jamila Amadou, infirmière de la case de santé de Kintebisguine, est au micro d'Ahmed Fellan.
Notre travail marche bien. Les maladies les plus fréquentes sont la diarrhée, les maux de ventre, la fièvre et autres. Les difficultés que nous rencontrons, c'est avec les jeunes de la campagne. Même s'ils sont malades, ils ne viennent pas à temps pour les consultations. Il faut que la maladie soit compliquée pour qu'ils puissent informer. Et le pire, ils ne peuvent plus venir. Il faut qu'on se déplace. Même en cas d'accouchement, il faut qu'on se déplace pour suivre la femme qui est en travail. Alors que logiquement, c'est la femme enceinte qui doit se rendre au CSI dès les premiers symptômes du travail. Nous attirons leur attention de venir en consultation prénatale. Il y a des femmes qui ne viennent que juste quand elles sont à terme. Il y en a même qui viennent au moment où elles commencent à saigner.
Restons à Agadez où ces derniers temps, dans les rues de la ville, l'on constate des enfants mineurs non accompagnés qui errent à des heures tardives. Cette situation n'a pas laissé la Commission nationale des droits humains indifférente. Elle a rappelé aux parents que ces enfants ont des droits. Moussa Bachir, chef d'antenne CNDH d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
Nous constatons ce dernier temps à Agadez qu'il y a beaucoup de mineurs qui errent dans la ville d'Agadez à des heures de fois tardives. Vraiment, nous condamnons ce genre de pratiques et de fois ces enfants mendient le long de la route. Donc, nous demandons à leurs parents d'en tenir compte que ces enfants ont des droits, comme le droit d'être protégé, le droit d'être soigné, le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Donc, nous nous rappelons à ces parents qu'ils doivent respecter ces droits des enfants. Donc, ils doivent faire tout pour ne pas laisser les enfants errer. Vous voyez, tout ça là peut amener à faire ce qu'on appelle la séquestration, la traite des personnes, beaucoup de choses. Il est exposé à beaucoup de dangers, à beaucoup de risques. Donc, les parents doivent veiller à cela.
Le 4 mai dernier, le groupe français Orano a signé un accord de partenariat avec l'État du Niger. L'accord couvre plusieurs sujets comme le projet Imouraren, la poursuite de l'exploitation de la mine de la Somaïr et l'engagement sociétal d'Orano au Niger incluant une enveloppe de 85 millions d'euros. Quelle est la réaction de la société civile d'Arlit par rapport à ce projet? Le président de la coordination de la société civile d'Arlit, Al-Mustapha El-Hassen, joint au téléphone par Gungu Maman Dantani.
Cet accord-là, pour moi, c'est un accord qui n'est pas compréhensible du tout. On a parlé de réaménagement du site. C'était quelque chose qui était déjà arrêté depuis le 4 mars 2020. L'État du Niger et Orano se sont accordés pour le réaménagement du site. Donc, je suis vraiment surpris pourquoi on a mis ça dans cet accord-là. C'est pour confirmer les dires de la CRIRA qui dit que Orano est parti abandonner une vingtaine de millions de tonnes de l'air libre. Donc, si on les met dans cet accord-là, à mon avis, ça confirme cela. Il y a aussi le scandale d'Imraran, parce qu'apparemment, ils vont faire du scientifique, quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Et puis d'autre part, on a parlé des 20 millions ou 20 milliards qu'on va dépenser dans la région d'Agadez. Et je me demande, c'est toujours comme l'Irafer, on a 11 milliards depuis 2006 jusqu'à présent, on n'a pas pu planter un seul arbre avec ces 11 milliards. J'imagine que les 25 milliards, ça, c'est la même chose. Et puis de l'autre côté, les 4 milliards prévus pour la fermeture de la communauté sont encore aujourd'hui en suspens, alors que normalement c'est prévu que ça soit utilisé le plus tôt possible.
Partons à Dosso à présent où le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé du 6 au 8 mai une rencontre de validation du document d'avant-projet de la politique de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pendant 3 jours, les participants issus de diverses institutions et organisations ont échangé sur les insuffisances et les irrégularités contenues dans cette loi. Quelques participants au micro de Mokhtar Hamad.
Nous avons tous appris que malheureusement, quand il y a expropriation pour cause d'utilité, toujours l'indemnité n'a jamais suivi. Alors même que la loi dit, avant d'exproprier un propriétaire de son bien, il faut qu'il y ait une juste et préalable indemnisation. C'est vrai que l'expropriation relève du domaine régalien de l'État, mais néanmoins que l'État vraiment puisse faire en sorte que la loi puisse être respectée.
Est-ce qu'il faut maintenir la même formulation que le droit français qui parle d'une juste et préalable indemnisation? résoudre, mais faut-il revoir la formulation de cela. Donc tout ça, là, la politique ne le dira après. Il est souhaitable de faire une relecture de la loi sur l'expropriation pour voir exactement ce qui ne colle pas avec nos réalités et réviser les textes et l'adopter à nos réalités.
Vraiment, ça a été une très bonne chose parce qu'à l'issue des travaux, nous sommes tous convenus qu'il y avait des faiblesses, il y a des irrégularités, il y a des pratiques, il y a des insuffisances. Donc on a fait des propositions, des recommandations qui tendent à enrichir ce texte pour sa mise en application.
Hier 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge a été célébrée de par le monde. Des contributions ont été apportées aux réfugiés du Nigeria vivant à Birni-Konyi. El Hadj Aliou, président de la Croix-Rouge de Birni-Konyi, au micro d'Assoumana Moussarzika.
Nous prenons en charge les réfugiés que nous avons recensés. Aujourd'hui même, nous avons une équipe qui est venue leur rendre visite afin de s'inquiéter de leurs conditions de vie. Il s'agit de réfugiés venus du Nigeria et d'autres pays. Nous les suivons pas à pas. Nous transmettons leurs besoins à nos supérieurs hiérarchiques. Ils sont nombreux, les réfugiés ici. Je ne peux pas donner le nombre exact, mais je sais que chaque ménage a 3 à 4 membres et nous prenons en charge environ 5 ménages. À part leur santé, nous nous occupons de la propriété de leur lieu d'hébergement. Et tout cela, c'est à travers la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge luxembourgeoise. Nous travaillons ensemble.
L'agence nigérienne de la sécurité routière ANISER a tenu un atelier de validation du rapport 2022 sur les accidents de la route avec pour objectif de réduire de 25% les accidents d'ici 2026. Le gouvernement compte s'appuyer sur le nouveau cadre institutionnel de sécurité routière et la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2025 pour atteindre cet objectif. Les données officielles montrent une augmentation des accidents avec plus de 8500 accidents corporels en 2022 contre environ 7500 en 2021, entraînant une hausse des décès, des blessés graves et légers. Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. Le collège d'enseignement général Aghamboulou de la commune rurale de Timia relève du département d'Iférouane. Cet établissement scolaire est composé de 48% de filles. Malgré cet effectif, ces filles arrivent difficilement à achever leur cursus scolaire selon le proviseur. Plusieurs handicaps freinent l'éducation de ces filles. Zakaria Anousra, proviseur du CS de Timia, est au micro de Habiba Ahmed.
Monsieur le proviseur, en termes de fréquentation de filles dans votre établissement, quelle est la situation?
CS Aghamboulou de Timia, la situation n'est pas du tout bonne parce que si on regarde les effectifs, aujourd'hui nous avons 260 garçons et 243 filles. Et ça montre que vraiment l'effectif des filles reste encore inférieur à l'effectif des garçons. Et si on compare cela à la population du Niger aujourd'hui, donc au Niger nous avons environ 51% des femmes contre 49% des hommes. Donc les mêmes effectifs normalement doivent se retrouver là-bas. Ça veut dire qu'au niveau du collège, normalement aujourd'hui, on va trouver une situation où ce sont les filles qui remportent. Donc l'effectif des filles qui est plus grand que l'effectif des garçons. Et tout cela montre que jusqu'à présent, il y a beaucoup de filles qui n'atteignent pas le secondaire.
Qu'est-ce qui bloque la fréquentation de la jeune fille au secondaire?
Ici, concernant la fréquentation de la jeune fille, il y a beaucoup d'éléments donc, qui la bloquent. Le premier élément, c'est le mariage précoce. Nous sommes en zone rurale et aujourd'hui, cette question du mariage-là, c'est une question d'actualité. Chaque année, ou bien toujours, vous allez entendre que les mariages qui se font, c'est les élèves qui se marient. La deuxième cause, donc, il y a les abandons. Nous avons des filles qui viennent ici et qui n'arrivent pas parfois à finir l'année. Et tout cela fait que les taux de la scolarisation de la jeune fille va toujours baisser vu ces régressions.
Quelles sont les solutions que vous envisagez pour rehausser les indicateurs?
Pour rehausser ces indicateurs-là, la première solution, c'est la sensibilisation. On les fait, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que tout le monde doit donc s'atteler pour sensibiliser les populations afin de rehausser l'âge du mariage. Et la deuxième solution concernant les abandons. Aujourd'hui, donc, toutes les filles qui abandonnent, parfois c'est pas les mariages, parfois c'est les problèmes de tuteurs. Ici, le village est déjà saturé. Tout le monde connaît les villages de Timia. Donc les maisons sont exiguës. On peut dire que les maisons sont déjà saturées. Ici, la solution donc qu'on préconise, c'est la construction d'un internat des filles. Comme ça, donc, cet argument du manque de titres va disparaître. Et cet internat va nous permettre de maintenir ces filles à l'école jusqu'à la fin de leur cycle.
Pour cette édition d'information, merci de l'avoir suivi et au revoir.